VOA Afrique, les infos. À Washington, Nathalie Barre.
Bonjour, il est 16h en temps universel. Actualité africaine, la Cour constitutionnelle du Burundi a validé ce mardi la candidature du chef de l'État Pierre Nkurunziza à un troisième mandat présidentiel. Cette candidature, objet de controverses, est la cause de protestations dans le pays depuis plusieurs jours. Des précisions avec Félix Yepassi Zembrou.
Le renouvellement, une seule et dernière fois de l'actuel mandat présidentiel au suffrage universel direct pour 5 ans, n'est pas contraire à la constitution du Burundi, dit l'arrêt signé par 6 juges sur 7. Le vice-président de la Cour a, lui, refusé de signer et fuit le pays, dénonçant des pressions sur la Cour pour qu'elle valide la candidature. Pierre Nkurunziza a déjà été élu 2 fois, en 2005, après les accords d'Arusha par le Parlement, et en 2010 au suffrage universel direct. Le 25 avril dernier, son parti, le CNDD-FDD, l'a désigné candidat à la présidentielle du 26 juin. Cette désignation a déclenché une série de manifestations d'opposants à un troisième mandat qu'il juge inconstitutionnel et contraire aux accords d'Arusha qui avaient mis fin à la guerre civile de 1993 à 2006. Par ailleurs, le gouvernement burundais s'est dit prêt aujourd'hui à libérer les manifestants arrêtés et rouvrir les radios fermées depuis le début de la contestation. Les émeutes ont forcé au moins 24 000 Burundais à fuir vers le Rwanda voisin.
Au Mali, affrontement entre militaires et rebelles à Ténénkou, une ville de la région de Mopti dans le centre du pays. Dimanche, la mission de l'ONU au Mali a exhorté toutes les parties au conflit à cesser les hostilités et à évacuer les positions nouvellement occupées. Les chefs de 8 groupes armés centrafricains se sont engagés ce mardi à relâcher plusieurs milliers d'enfants soldats ainsi qu'à cesser tout recrutement d'enfants. Ce serait une première dans l'histoire de ce pays. L'accord a été signé en marge du forum de Bangui qui réunit près de 600 participants durant une semaine pour la réconciliation nationale et pour discuter de l'avenir du pays. La cérémonie était présidée par la ministre de la Défense, Marie-Noël Koyara, en présence notamment des ambassadeurs de France et des États-Unis et de représentants de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Par ailleurs, le KNK, le parti de l'ancien président François Bozizé, boycotte la réunion. Son secrétaire général Bertin Béa justifie cette décision par la mise à l'écart des principaux acteurs de la crise centrafricaine, à savoir les ex-présidents François Bozizé et Michel Diotodia.
Mais nous pensons que le début de la transition aurait pu créer les conditions d'une véritable réconciliation en amont. Mais nous avons eu le sentiment que ces autorités de transition se sont comportées exactement comme s'ils avaient remporté des élections et qu'ils traitaient les autres comme des moins que rien. Et donc, devant cette situation, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu une position d'arbitre dans ce qui se passait. Parce que Mme Cheta de transition a été élue pour, n'est-ce pas, conduire le pays vers la réconciliation et de nouvelles élections. C'est ce qui est contenu dans la feuille de route, n'est-ce pas, qui lui a permis d'être élu. Aujourd'hui, cette feuille de route n'est plus respectée et nous pensons que la position des autorités est une position partiale, exclusive, et c'est un outil qui explique notre absence à la réunion du forum de Bangui.
En République démocratique du Congo, le militant Fred Boma du mouvement citoyen Lutte pour le changement a été transféré ce mardi à la prison centrale de Kinshasa. Il avait été arrêté le 15 mars avec une 30aine de personnes lors d'une rencontre sur la bonne gouvernance et la démocratie en Afrique. Affichant son manque de confiance en la justice congolaise, le mouvement Lucha a dit sur son compte Facebook espérer un non-lieu du parquet et sa libération immédiate. Hier, vers 19h, le mouvement a appris que l'ANR l'a déféré à la tombée de la nuit au parquet de la Gombe, alors qu'il espérait son transfert à Goma. Selon ces jeunes militants pacifiques, il est resté détenu au secret 50 jours par l'Agence nationale du renseignement à Kinshasa, sans inculpation. Le chef de la diplomatie américaine John Kerry s'est rendu ce mardi en Somalie. Aucun chef de la diplomatie américaine n'avait jamais visité ce pays de la Corne de l'Afrique où règne la violence armée depuis 1991. John Kerry a estimé que ce pays en guerre allait mieux depuis la mise en place d'institutions provisoires et les succès militaires contre les islamistes.
VOA Afrique en direct de Washington.
Après 17 ans de prison, le Camerounais Michel Thierry Atangana est toujours en quête de réparation. Le Centre Kennedy pour la justice et les droits humains a tenu lundi à son siège ici à Washington une table ronde sur la détention arbitraire au Cameroun. Plusieurs experts ont pris part au débat et le franco-camerounais Michel Thierry Atangana, figure emblématique de la détention arbitraire, a fait le déplacement aux États-Unis pour prendre part aux discussions. Arrêté sans mandat le 12 mai 1997, par des agents des services de sécurité camerounais sous l'accusation de détournement de deniers publics, M. Atangana avait été placé en détention solitaire à Yaoundé à l'issue d'un procès qui, de l'avis des experts, ne répondait pas aux normes internationales. Il a été condamné à 15 ans de prison, mais d'aucuns pensent qu'il a ainsi payé son soutien à un opposant qui projetait de se porter candidat contre le président Paul Biya. Le groupe État islamique a revendiqué la responsabilité de l'attaque de dimanche sur un centre de conférence près de Dallas, au Texas, où se tenait un concours de caricature du prophète Mahomet. Des précisions avec Jean-Roger Bion.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Alors, le groupe extrémiste a fait l'annonce ce mardi sur sa station de radio en disant, je cite, « Deux des soldats du califat ont mené l'attaque de dimanche dans la ville de Garland. La police a identifié les assaillants comme étant Elton Simpson et Nadir Soufi. Les deux ont ouvert le feu sur le centre de conférence, blessant un garde de sécurité avant d'être abattu par des policiers. Les documents judiciaires montrent que Simpson était sous surveillance depuis 2006 et accusé en 2010 d'avoir menti à des agents du FBI à propos de sa volonté de rejoindre le djihad en Somalie. Lundi, des agents du FBI et de la police ont fouillé le domicile des deux hommes à Phoenix, dans l'Arizona. L'association Initiative américaine de défense de la liberté a parrainé l'événement, offrant un prix de 10 000 dollars pour le vainqueur. En janvier dernier, deux hommes armés ont attaqué à Paris le magazine satirique français Charlie Hebdo, qui a présenté plusieurs caricatures du prophète Mahomet. L'attaque avait fait 12 morts dans la rédaction. La ville frontalière de Najran, dans le sud-ouest de l'Arabie Saoudite, a été touchée aujourd'hui par des obus de mortiers, des roquettes Katyusha tirées par des rebelles chiites houthis au Yémen. La chaîne d'information en continu El Ekabaria a montré des images d'importants dégâts avec des impacts sur des bâtiments et des voitures endommagées à Najran. Dans le même temps, à Riyad, un sommet des monarchies du Golfe s'est ouvert en présence pour la première fois d'un chef d'État occidental, le français François Hollande. Au haut du sommet, le roi Salman d'Arabie Saoudite a dénoncé une menace extérieure qui vise à étendre le contrôle et à imposer son hégémonie sur la région par la sédition confessionnelle. L'Italie a une nouvelle fois relancé mardi l'Union européenne en lui demandant de faire davantage face à l'afflux de migrants. Il ne suffit pas d'ajouter une dizaine de navires à ceux italiens présents en Méditerranée pour résoudre le problème, a déclaré mardi le ministre italien des Affaires étrangères Paolo Gentiloni, demandant aussi une contribution européenne à la lutte contre les trafiquants d'êtres humains ainsi qu'une autre approche concernant le droit d'asile. Une quarantaine de migrants auraient trouvé la mort lors d'incidents sur leur canot pneumatique, ont raconté mardi des survivants arrivés à Catane, en Sicile. Les livraisons d'aide continuent au Népal, où certaines zones sont encore difficiles d'accès. Plus d'une semaine après le violent séisme qui a secoué le pays, le gouvernement a déclaré un total de plus de 7 500 personnes mortes et environ 14 500 blessés, soulignant que le bilan sera probablement beaucoup plus élevé quand les zones reculées seront accessibles. Les Nations Unies ont déclaré 8 millions de personnes touchées par la catastrophe, soit plus d'un quart de la population du Népal. L'UNICEF a annoncé l'arrivée de 40 tonnes d'aide pour prévenir toute maladie due à l'eau non potable.
Soyez au cœur de l'info.